Je te rappellerai que
1,3 milliard, 1,4 milliard de dollars.
C'est beaucoup, beaucoup d'argent.
À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
Un directeur de la section argent, pas comme les autres. Yves Daou.
Un jour la pluie viendra, nous serons.
Yves, sur du Dalida comme ça, comment ne pas passer un bon matin? Ben, peut-être quand on manque d'eau du côté des responsables d'Hydro-Québec à la baie James, quelque chose qu'on pensait peut-être jamais voir arriver au Québec. Les bassins, là, les réservoirs d'eau en haut des barrages qui sont ben, vraiment très bons en ce moment, Yves.
En fait, la chanson de Dalida, ce qui est intéressant dans son refrain, c'est « Le jour où la pluie viendra, nous serons toi et moi les plus riches du monde ». Et en fait, c'est vrai, Alexandre, on est les plus riches du monde avec notre or bleu. Mais cet or bleu-là, là, t'sais, il sert beaucoup comme ressource pour l'hydroélectricité au Québec. Et la semaine dernière, je pense qu'on en a parlé, Alexandre, là, Hydro-Québec a fait connaître ses résultats financiers pour le trimestre. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont réduit leur activité d'exportation en avril, en mai, en juin, en raison principalement des prix de l'énergie qui étaient devenus trop bas sur les marchés internationaux. Puis ça nous a surpris, cette information-là. Et donc, évidemment, on a interrogé toutes sortes de monde. Puis un professeur de l'université McGill, qui est spécialisé en génie électrique, il dit, je questionnerais Hydro sur le niveau d'eau trop faible d'un réservoir d'hydro qui pourrait expliquer cette décision-là. Parce que, effectivement, sais-tu quoi, il n'y a plus beaucoup dans le sud, mais dans le nord, okay, c'était très, très sec. Et donc, les niveaux d'eau, tu sais, dans les bassins, ont probablement baissé. Et là, on a interrogé, évidemment, Hydro-Québec là-dessus. Ils ont dit non, il faut pas s'inquiéter. On est capable de gérer les réservoirs de façon pluriannuelle, etc. Sauf qu'on a quand même questionné sur ce qu'on appelle les réserves de production d'énergie en terrawatt-heure. Et ils ont dit, nous, on vous dévoilera pas les chiffres avant que la régie les dévoile là, en automne. Sauf que au 1er janvier de 2023, les réserves de production d'énergie étaient autour de 133,2 terawatt-heure d'heure et la moyenne sur 5 ans est de 137. Ça veut donc dire que potentiellement, je le dis, là, les réserves sont peut-être plus bas que d'habitude. Et donc, ça suppose que Hydro-Québec doit gérer de façon intelligente tout ça parce que il faut qu'elle prévoie l'électricité dont le Québec aura besoin cet hiver. Hein. Mmh. Et donc, je pense qu'il y a une certaine... Hydro-Québec dit qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais quand même, tu sais, des questions qui ont été soulevées parce qu'ils ont été assez surpris de voir Hydro-Québec de pas vendre d'électricité à l'exportation, qui est quand même une source de revenus importante. Mais là, ils disent que les prix sont trop bas. Mais tu sais, ça a représenté pour eux autres une espèce de déficit financier pour ce trimestre-là. Donc, écoute, la gestion de l'eau puis du star bleu-là, là, c'est vraiment... les prévisionnistes là à Hydro-Québec, là, ils doivent avoir des ordinateurs avec toutes sortes de calculs. Ils disent qu'à long terme, les prévisions reliées au changement climatique laissent entrevoir une hausse de précipitation de 5 à 10 % dans le nord du Québec, selon eux. Donc, tu sais, on peut espérer effectivement que... Bon, je pense pas qu'Hydro-Québec va faire la danse de la pluie demain matin, là. Mais la réalité, c'est que c'est un élément important d'avoir des réservoirs là, tu sais, qui sont suffisants pour nous générer de l'hydroélectricité. Et juste te rappeler, Alexandre, tu sais, les réservoirs d'Hydro-Québec, là, on a 27 réservoirs d'eau dont la capacité de stockage équivaut à presque 173 TWh. Un TWh, là, ça peut alimenter 50 000 maisons. Et là, tu sais, on a des grands bassins, là, tu sais, Kanyapisco, La Grande, le Robert Bourassa, qui sont des barrages immenses, là. Donc, aujourd'hui, là, tu sais, on peut compter sur une ressource qui est importante, qui est l'eau. Hydro-Québec doit bien la gérer, mais il y en demeure pas moins que les changements climatiques pourraient avoir un impact sur cette ressource-là.
Ouais, puis je suis content que tu parles de l'or bleu, Yves, honnêtement, parce que même en dehors d'Hydro-Québec, de la production d'électricité, c'est la ressource la plus importante au Québec. On la vend à rabais pour toutes sortes de raisons aussi. L'eau potable, là, il y a une gestion de l'eau douce à revoir, je pense, dans un contexte de changement climatique au Québec, surtout à quel point on peut préserver cette ressource-là. On est chanceux. chanceux en Tipéché, on va le dire comme ça, là, d'avoir vraiment là, tout cette eau potable, toute cette eau douce au Québec. Faut pas la prendre pour acquis, surtout dans des situations comme celle-là. Yves, l'achat local, c'est payant, semble-t-il. On a eu des données, finalement, qui expliquent puis qui expriment surtout à quel point ben, d'investir dans une petite entreprise d'ici, ça garde de l'argent dans notre économie.
En fait, Alexandre, c'est la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante qui représente beaucoup de PME à travers le Canada, dont plusieurs au Québec. Et ils ont mandaté une firme qui s'appelle Civic Economics pour déterminer c'est quoi la part de chaque dollar qui est réinjecté dans l'économie locale, que ce soit une multinationale ou une PME. Et selon leur étude, quand une petite entreprise qui est installée ici puis qui fait de l'achat ici, ça représente dans l'économie locale 66 cents par dollar qui est réinvesti ici, alors qu'une multinationale, ça serait 11 sous. Mmh. Et ça revient à un discours qu'on a depuis longtemps. Tu sais, quand une entreprise qui est basée au Québec, dont que ce soit public ou privé, dont le conseil d'administration est ici, les dirigeants sont ici, etc., leur décision d'achat, okay, autant au niveau de la création d'emplois, mais aussi tu sais, tout leur achat là, avec des fournisseurs, que ce soit pour leurs matières premières, ou même ça va jusqu'à tu sais, engager un comptable, acheter de la papeterie, etc., ben normalement, c'est fait ici. Et c'est pour ça que quand on dit tu sais, que les centres de décision doivent être au Québec, ça, c'est un exemple où tu sais, t'as des PME qui vont acheter d'abord et avant tout ici. Tu sais, si tu prends une multinationale, par exemple, dont le siège social est basé à Chicago, quand ils vont penser à la papeterie ou à un comptable, etc., ils penseront pas au comptable au Québec, là. Ils vont faire affaire avec des entreprises qui vont être basées bien plus dans leur territoire à eux. Donc, c'est un élément extrêmement intéressant comme étude. On a quelques exemples de témoignages, là. On a un ex-prof des sciences en secondaire qui est parti d'une boutique qui s'appelle les Galeries de Jouets au Saguenay depuis 13 ans. Là. Et lui, là, actuellement, il ne fait que acheter, réinvestir ses profits ici. Puis c'est des fournisseurs québécois qui vont profiter, évidemment, de ces achats. Il y a une PME en Montérégie qui ajoute de l'aluminium d'ici pour ses produits de fabrication en architecture. Il ne va pas acheter son aluminium en Chine. Il l'ajoute ici même au Québec. Donc, un bon exemple là, de tu sais que quand tu achètes ici même au Québec, ça profite plus à l'économie du Québec. Évidemment, ces entreprises-là payent des impôts ici, alors que des multinationales, on le sait, dans bien des cas, vont payer une partie de leurs impôts ici, mais probablement beaucoup plus dans des pays où ils vont avoir localisé leur fiscalité intelligente, là, comme
ouais,
on dit.
Ouais, t'es poli.
Donc, enfin, une façon pour eux autres de sauver un peu d'impôts. Donc, je pense que c'est important de rappeler ça, l'importance, Alexandre, tu sais, qu'on prenne des décisions ici, donc avoir des entreprises dont on est les principaux actionnaires, puis acheter auprès des fournisseurs québécois. Donc, ça ne peut qu'aider l'économie du Québec, puis en bout de ligne, on finit par y gagner tous.
Ouais, ça rend un peu plus... un peu plus lourd aussi de sens la décision de la Ville de Montréal là, de dépenser en fou sur Amazon, là, comme ça a été rapporté entre autres par le bureau d'enquête du journal. Hein. La Ville dépense c'est quoi au-dessus de 1 000$ par jour quasiment sur Amazon au lieu d'encourager l'achat local puis venir chercher des produits qui on s'entend là, ils pourraient sûrement trouver ici. C'est un peu moins défendable du côté de la Ville quand on entend ça. Puis rapidement, Yves, on a toute une dette sur le dos des contribuables en raison des taux d'intérêt.
En fait, Alexandre, il faut, tu sais, l'idée là, si tu le prends d'un point de vue d'un particulier, là, si tu payes pas tes cartes de crédit, là, ce que tu fais, c'est que tu reportes tout le temps dans l'avenir ce que tu vas avoir à payer. Mais c'est la même chose pour les dettes de l'État. Et là, le gouvernement fédéral a fait connaître ses résultats financiers là au dernier trimestre, là, qui est le mois d'avril à juin 2023. Tiens-toi bien, Alexandre, les frais de la dette publique là, ont explosé de 32 % par rapport au trimestre de l'année dernière. Là, ça veut dire là, que tu sais la fameuse dette que Trudeau nous a créée d'une certaine façon avec tout l'argent qu'il a dépensé, là. Écoute, juste dans ce trimestre-là, c'est une hausse de 2,6 milliards pour le premier trimestre. Mais quand tu regardes ça sur deux années, là, depuis les deux dernières années, là, écoute, la dette, là, les frais de la dette ont augmenté de 12 %. Ça veut dire que là, à mesure que les taux d'intérêt augmentent, aussi les frais d'intérêt que payent les États là, ou le gouvernement du Québec, le gouvernement du Canada, les municipalités, ben ça coûte très cher. Et les frais d'intérêt là, sur la dette fédérale là, devraient atteindre là, 43,9 milliards au cours du présent exercice. Là. C'est 20 milliards de plus qu'il y a 2 ans. Ça veut donc dire là, que tu continues à payer des intérêts, tu comprends-tu, sur une dette qui s'accumule. Et ça, on va toujours la payer. Gouvernement du Québec, bon, ils n'ont pas des données à jour parce qu'ils viendront prochainement. Mais lors de l'année de 2020 à 2022, Québec avait payé pour 10 milliards en frais d'intérêt sur une dette de 206 milliards. Donc, c'est sûr que à mesure, puis là, je vais pas rajouter les municipalités qui ont des dettes brutes de 30 milliards au Québec. Donc, il faut y penser parce que quand tu payes des frais d'intérêt, là, on s'entend pour dire là, que ça rapporte rien en matière de service à la population. Ça. Tu payes ça puis tu gagnes rien là-dedans. C'est un peu comme jeter de l'argent pour les fenêtres, ce que dit Michel Gérard ce matin. Donc, on finit par payer le prix de ce qu'on a fait dans les années passées. Puis souhaitons qu'on soit peut-être plus prudent des années à venir, parce que je te rappellerai que la Anita Rodan, qui est la présidente du Conseil du Trésor au Canada, a récemment annoncé que d'ici octobre, les ministères au fédéral devaient couper plusieurs milliards pour arriver à leur budget. Là. Donc, peut-être un son de cloche intéressant ce matin d'une dette d'État qui représente à peu près 90 000 sur le dos de chaque contribuable. C'est peut-être une façon de peut-être réfléchir aux dépenses publiques.
Oui, en espérant que le gouvernement de Justin Trudeau entende notre chronique ce matin, Yves Daou. Merci beaucoup d'avoir été là.
Salut.